Colibre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission qui s'appelle aussi Radicaux Libres sur le site qui s'appelle pas Radicaux Libres mais radioalpa.com. On aurait pu vous parler de l'indignité du moment. Non, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui passe encore en procès en appel, là on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il sera condamné à ce pourquoi à quoi il mérite. En l'occurrence, je rappelle que quelqu'un qui passe régulièrement devant les tribunaux doit assumer ses gestes. C'est ce qu'il tweetait régulièrement dans les années 2010. C'est le moment de te montrer à la hauteur de ta cohérence, mon petit. Oui, c'était le plus petit de nos grands hommes. Mais non, l'indignité du moment, ce sont les maires qui ont été sifflés, conspués, chahutés lors de leur discours d'annonce des résultats en mairie à l'issue du second tour, voire même au premier. La République elle-même, dont on se souviendra qu'elle est une démocratie au rabais, puisque représentative, serait en danger. Vous voyez, c'est ce qu'on a pu entendre toute la semaine. Le concert de l'armée bourge est permanent depuis une semaine, avec en point de mire toujours les mêmes. LFI. Bon, je rappelle que ce sont les seuls communistes un petit peu cohérents sur la place, sur le marché de l'électorat. Bon, un marché qui, je vous le rappelle aussi, ne devrait pas exister en démocratie, puisque normalement, le pouvoir appartient au peuple et non pas à des groupes qui ont l'intention de l'obtenir, ce pouvoir. Le ministre de l'Intérieur himself, Laurent Nunez, celui qui n'essaie même pas d'interdire les manifestations de néo-nazis et néo-fascistes, a jugé ces chahuts comme totalement inacceptables. Gabriel Attal, qui fait partie du parti Renaissance et qui ne sait pas comment exister, a tweeté mardi 24 mars, je cite, alors pas tout, mais je vais citer quand même, une partie, depuis dimanche, dans les villes emportées par la France insoumise, des mêmes scènes abjectes se multiplient. Des maires sortants attachés aux valeurs républicaines, engagés pour leur commune depuis des années, traités de fascistes, tués, injuriés, moqués, escortés par des policiers pour éviter des coups, parfois traqués jusqu'à chez eux par une foule haineuse. Ils ne donnent pas trop d'exemples. Ah non, c'est pas très... c'est un tweet, forcément pas très très documenté. Alors il continue, notre démocratie, notre république, nos élus locaux méritent mieux que la brutalité et les torrents de haine promus par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Soutien total aux anciens maires de Saint-Denis, Creil, Leblanc-Ménil, Vaux-en-Velin et Aubervilliers. Alors qui sont ces élus outragés? On a pris simplement ceux qui avaient le soutien total de Gabriel Attal dans le tweet. À Saint-Denis, l'ancien c'était un PS, Mathieu Hanoton, qui a été sifflé pendant son discours de passation après l'installation de la nouvelle équipe et qui est parti encore sous les sifflets. À Aubervilliers, c'est une UDI, Karine Franklet, dont on n'a pas trouvé grand-chose. À Creil, par contre, oh là là, l'ancien, c'est un PS, Jean-Claude Villemain, qui avait démissionné en 2024 parce qu'il y avait un petit peu trop de transactions immobilières qui intéressent la justice, ce qui lui courait aux fesses. Donc du coup, la personne qui a été mise à sa place, une certaine Sophie Doury-Lenner, qui était dans son équipe, a subi un petit peu... ce que le monsieur Jean-Claude Villemain avait pu faire aux habitants de Creil, en l'occurrence, en faisant des transactions immobilières qui intéressaient des copains à lui. Il avait la mairie, mais donc lui avait acheté et vendu des biens immobiliers à des prix prohibitifs pour l'achat et puis à des prix sous-évalués pour la vente. Et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de ces transactions qui sont liées, si on en croit la presse locale, pas celle de la Sarthe, mais celle de la région parisienne, de personnes qui seraient des proches de Jean-Claude Villemain. À Vaux-en-Velin, c'était la PS Hélène Geoffroy. Alors, la PS Hélène Geoffroy, elle est élue en 2020 avec Renaissance. En 2020, association avec Renaissance. Renaissance, je rappelle quand même que c'est la droite du centre, même voire l'extrême droite du centre, tant on voit qu'une grande partie de ceux qui y ont participé, ce sont des soutiens maintenant, comme Édouard Philippe, on en reparlera, ce sont des soutiens de cette extrême droite, en tout cas au niveau idéologique, puisqu'ils tapent sur les immigrés, revendiquent par exemple que c'est trop cool la colonisation. Je rappelle qu'à Horizon, quand même, oui, qui faisait partie de ce groupe ensemble, là, des alliés de La République En Marche. Ah, ouais, tout a beaucoup bougé depuis 2017, alors on ne sait plus lesquels sont lesquels. Mais bon, à cette droite-là, qui se disait ni de gauche ni de droite, eh ben, on trouve Horizon et notamment ben, Christelle Morançais. Christelle Morançais, Musk, une histoire d'amour. La PS, en l'occurrence Hélène Geoffroy, qui était à Vaux-en-Velin, elle fait partie de la frange du PS contre la NUPES en 2022, comme Stéphane Le Foll. Prêt à tout pour qu'il n'y ait pas d'association avec les communistes. Ah ouais, ah ben non, mais le PS qui n'est pas socialiste, forcément ne veut pas d'association avec des communistes, les communistes de LFI, qui, je rappelle, revendiquent une autre, un certain anticapitalisme. Ce qui n'est pas le cas du tout dans une frange du PS et même dans une grande partie du PS. Il y a le Blanc-Ménil, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On a un certain Thierry Meignan. Thierry Meignan, élu en 2014 et en 2020. Il a dû lâcher le poste en 2021 pour cumul de mandats quand il est devenu sénateur du parti Les Républicains pour le département de la Seine-Saint-Denis. Cependant, personne n'est dupe dans la ville puisque le premier adjoint qui a été élu à sa place en 2021 au sein du conseil municipal se contente de passer la parole au conseiller municipal Thierry Meignan après avoir ouvert les séances du conseil municipal, si on en croit un article du Canard Enchaîné du 4 octobre 2024. Celui-ci, Thierry Meignan, est également connu pour avoir grassement financé une association culturelle cofondée par Sarah Knafo, la dulcinée d'Éric Zemmour, dont il a fait... En fait, il a donné une subvention à l'association pour qu'elle fasse des choses qu'elle n'a jamais fait. Et puis en plus, à l'initiative de l'association, c'était Alexandre et Aristote, la municipalité du Blanc-Ménil a acheté plein de livres pour la bibliothèque publique du Blanc-Ménil, dont les livres d'Éric Zemmour, et puis de Bainville, et puis plein de gens d'extrême droite. Alors je ne sais pas si Gabriel Attal connaît le pédigré des élus à qui il adresse un soutien total. Pour ma part, moi, dans ces huées et dans ces bousculades, je vois plutôt l'image d'une société toujours plus polarisée où la défaite de l'autre ne suffit pas à calmer les attentes mises dans l'élection de son poulain. J'y vois de fait un symptôme de la difficulté à faire société quand nous sommes encouragés dans bien trop d'activités sociales à mettre des équipes, des entreprises, des candidats, j'en passe et du pire, en compétition. On compétitive toujours, il faut être compétitif, il faut être en compétition. À force de ne pas coopérer, les adversaires deviennent finalement des ennemis irréconciliables qui auront eux-mêmes le désir de se venger la prochaine fois qu'ils auront le dessus. Eh bien, c'est sans fin. À moins d'arrêter la compétition. Et l'électoralisme, c'est une compétition. On aurait pu vous parler des 400 000 ressortissants des pays de l'Union européenne qui étaient appelés aux urnes lors des municipales, puisqu'ils ont le droit de vote aux élections municipales. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre un bulletin dans l'urne ou alors un doigt sur un écran. Ça, c'est pour la ville du Mans et une cinquantaine d'autres communes. Mais qu'ils peuvent aussi être élus, ces ressortissants de l'Union européenne. Eh bien, ils ont été systématiquement oubliés par les journalistes, nous rabâchant que 48 millions de Français pouvaient voter. On aurait pu en parler. On aurait pu vous parler également de Change Now. Change Now, ça aura lieu du 30 au 31 et 1er avril, 30 et 31 mars et 1er avril. C'est une grand-messe pour trouver des solutions pour la planète. La page d'accueil du site montre déjà l'ambition. Il n'y a que des chiffres. Et là, tout à coup, je tique. Tiens, la performance fichée et affichée comme solution pour la planète, je retique. Allons plus loin. Et là, je re-retique en voyant que le prince Albert de Monaco et Laurent Fabius sont des speakers de l'événement qui va regrouper des milliers de personnes venues le plus souvent en avion à Paris pour sauver la planète. Alors camarade, si tu as un article, un dossier ou une recherche quelconque à faire sur le greenwashing, cet événement comblera tes attentes. À propos de solutions, puisqu'il y avait un appel à participer, j'arrive trop tard. Je propose de passer d'une économie prédatrice basée sur la recherche du profit et le productivisme, une économie qui privilégie l'offre et appuie ensuite sur les ressorts de la connerie humaine à base de pub pour nous faire croire que nous avons absolument besoin du nouveau machin que les libéraux ont à nous vendre, et de passer plutôt à une économie socialiste dont la boussole est le service rendu et non pas le profit espéré, ce qui exclut déjà l'idée de secteur de la finance. Pour, à terme, finir par une économie bien à sa place dans la société et pas primordiale, Une économie exclusivement basée sur la demande et satisfaite en grande partie par l'autoproduction, le don et le contre-don. Voilà, bon, bah, si quelqu'un pouvait placer ça pendant la grand-messe, là, où on entendra le prince Albert de Monaco et Laurent Fabius, bah, je sais pas, ça pourrait changer. Mais finalement, on a préféré vous parler d'antifascisme, c'est-à-dire d'antisémitisme. Mais non, ça n'a aucun rapport. À tous ceux qui confondent les deux, arrêtez d'être cons. Non, mais je veux dire arrêtez, ça commence à se voir. Un dimanche de décembre 2023, nous avions rencontré un militant de la Horde à la maison des citoyens citoyennes place des Comtes du Maine à l'occasion de la présentation du livre. Ça y est, j'ai retrouvé le livre qui s'intitule « 10 questions sur l'antifascisme » et qui a paru aux éditions Libertaria pour le prix modique de 10 euros. Moi, à votre place, j'irai faire un tour sur éditionslibertaria.com. Il y en a plein d'autres qui sont trop super bien. Eh bien, à l'occasion de la présentation de ce livre, un militant qui ne dit pas son nom par protection, oui, je rappelle que l'extrême droite tue et que de ne pas dire son nom, ben, revient en quelque sorte à se protéger, comme ceux qui se masquent dans les manifs pour protéger leur anonymat et non pas pour rappeler les membres du Ku Klux Klan, n'en déplaise à un journaliste local qui se reconnaîtra s'il écoute. Mais le militant nous a quand même renseigné sur les moyens d'en savoir plus sur la Horde.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur notre activité, donc l'adresse de notre site internet, c'est lahorde.info. Et voilà, et vous y retrouverez à la fois l'actualité des groupes antifascistes, il y a un agenda, il y a une carte des groupes aussi antifascistes pour voir lequel pourrait être le plus près de chez vous, il y a du matériel qui peut être commandé, voilà.
Quand on parle de matériel, c'est du matériel de propagande. Ah non, je les voyais déjà d'entrée arriver. Comment ça ? Mais ils vendent quoi ? Nous avions tout simplement questionné le militant sur le bouquin. Mais avant cela, il présente le collectif La Horde, ouvertement antifasciste. Bah ouais, il y en a qui se cachent pas derrière des... Il était jeune, catholique, et il adorait les maths. Allez, arrêtez de baratiner. Bon, alors ça dure 8 minutes et on se retrouve juste après.
C'est un collectif un peu particulier parce que c'est un collectif antifasciste mais qui n'a pas une activité locale. C'est plutôt un collectif qui est au service des groupes antifascistes locaux et de toute personne qui souhaite lutter contre l'extrême droite. Et pour ça, on a plusieurs outils. Le principal, c'est un site internet sur lequel on parle de l'extrême droite, mais on essaie de donner de la visibilité aux initiatives des groupes antifascistes. L'autre outil, c'est qu'on diffuse du matériel. Là, on vient de sortir un bouquin, mais on en avait déjà traduit un autre. On a fait un jeu de société, on fait du matériel pédagogique, on va dire, des schémas, des cartes, on diffuse des stickers aussi. Et le troisième outil, on se propose pour des interventions, des formations, des discussions, à la fois sur l'extrême droite et sur la lutte antifasciste.
En l'occurrence, des cartes qui sont régulièrement mises à jour, qui nous donnent un petit peu le panorama de ce qu'est l'extrême droite. En l'occurrence, les accointances qu'il pourrait y avoir entre les catholiques traditionnalistes, mais aussi de l'autre côté des païens, mais, etc. C'est-à-dire toute la galaxie d'extrême droite.
Oui, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait ce schéma et qu'on le met à jour une à deux fois par an. Ça nous semble important parce que, effectivement, l'extrême droite évolue rapidement. Comme tu l'as dit, c'est intéressant de montrer un peu les différentes composantes de cette galaxie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des connexions entre toutes, mais ce qui les rassemble, c'est qu'elles ont le même projet inégalitaire. Et après, elles ont chacune leur spécificité. Donc effectivement, sur ce schéma, on distingue les électoralistes d'un côté, les traditionalistes, les médias, les groupes activistes. Voilà. Donc, c'est une façon, on va dire, visuelle de donner un petit aperçu de à quoi ça ressemble. Et puis en complément, puisque ces dernières années, ça s'est beaucoup développé, on a aussi une carte des groupes d'extrême droite locaux, pour le coup. Parce que autant il y a une dizaine d'années, on avait vraiment des réseaux un peu organisationnels d'extrême droite. Et là, suite aux dissolutions, mais aussi suite à une évolution interne à l'extrême droite, on a une espèce d'éclatement et une concentration de l'activité des groupes nationalistes sur le local.
Que tu es là pour présenter le livre « 10 questions sur l'antifascisme » aux éditions Libertalia. On ne va pas faire les 10 chapitres. Voilà, il y a une définition de l'antifascisme au début, une définition de l'extrême droite, un historique de l'antifascisme, parce qu'il faut bien commencer à un moment. Et en effet, 1922, c'est là que naît l'antifascisme, puisque c'est là que naît le fascisme en fait.
Alors oui et non. Oui, parce que le mot lui-même est importé effectivement des réfugiés italiens hein, qui fuient le fascisme et qui arrivaient en France disent bah, nous on est antifascistes. Les militants révolutionnaires français qui les accueillent disent mais c'est quoi ça? Et puis voilà. Et le mot après a été intégré, mais en France, ce mot d'antifasciste a permis de coller à une réalité qui existait déjà, qui était la lutte contre les groupes nationalistes de droite, qu'on appelait en fait avant la réaction, puisque la spécificité de l'extrême droite française, c'est d'être essentiellement contre-révolutionnaire, réactionnaire, antisémite aussi, là, surtout à cette époque. Et donc on pourrait dire que l'antifascisme existait avant le fascisme mussolinien, puisque quand on voit l'activité de groupes qui s'organisaient spécifiquement, par exemple au moment de l'affaire Dreyfus, c'est vraiment là que ça apparaît, contre des groupes nationalistes, de droite, racistes, avec des méthodes qui sont en fait celles encore même qu'on pourrait trouver aujourd'hui, on pourrait dire ouais, qu'il y a une espèce de préhistoire de l'antifascisme, mais que ce mot, comme souvent d'ailleurs ce type de mot, à un moment donné bah, a collé à une réalité préexistante, et du coup ce mot a été gardé, et aujourd'hui on pourrait dire qu'il y a une forme, toujours l'antifascisme existe, même si le fascisme historique n'existe plus, la preuve que les mots bon, bah, ont leur étymologie, mais après ce qu'on met derrière c'est en fait la réalité du terrain qui nous le dit, et non pas justement l'analyse simplement du préfixe du radical, quoi.
Le deuxième chapitre concernant l'histoire, c'est l'antifascisme aujourd'hui. Ça commence en 1984. Est-ce que c'est lié justement à une montée importante d'un groupe, en l'occurrence le Front National ?
Comme c'est une histoire de l'antifascisme et pas une histoire de l'extrême droite, même si évidemment les deux fatalement sont liés, 1984, on va dire, c'est l'acte de naissance d'un mouvement antifasciste autonome. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait de l'antifascisme avant, qui était pratiqué par des groupes politiques, généralement d'extrême gauche. Donc l'antifascisme, bien sûr, était une réalité pour ces groupes-là, mais à un moment donné, disons, cette lutte va s'émanciper, en quelque sorte, de l'extrême gauche, pour en devenir une composante. Et d'autant plus, ce qui va lui donner corps aussi, c'est que cet antifascisme autonome naissant va croiser la route d'un mouvement contre-culturel qui était celui du rock alternatif et qui va faire que l'antifascisme, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si c'est un peu moins vrai, est à la fois un mouvement politique, mais aussi un mouvement contre-culturel, un folklore aussi, on n'a pas de problème, nous, avec ça. C'est historiquement un mouvement d'autodéfense de la classe ouvrière et des mouvements révolutionnaires ouvriers. Ça, c'est l'historique. Et ça reste, je pense, un mouvement qui a un discours de classe. Mais c'est devenu aussi, et vraiment à partir des années 80, c'est là où il y a cette particularité d'être un mouvement qui est bien sûr ancré dans les luttes sociales, mais qui au-delà porte aussi un certain imaginaire, on va dire.
D'où la question qui est posée au chapitre 8, l'antifascisme est-il une contre-culture ? Et on répond oui.
On pose la question, hein, et la réponse est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que ce n'est pas une contre-culture à part entière, mais disons c'est une source d'inspiration dans la contre-culture, et surtout il y a des points communs, il y a vraiment des points de rencontre entre le milieu contre-culturel qui prône l'autogestion, le DIY, et qui est toujours vivant aujourd'hui, et les pratiques antifascistes qui sont elles aussi des pratiques autogestionnaires, qu'on veut d'émancipation, inclusive, etc. Et tous ces questionnements-là, on les retrouve de part et d'autre. Et c'est pour ça qu'on va dire plutôt que l'antifascisme, c'est plutôt un compagnon de voyage d'une certaine contre-culture. Et inversement.
C'est la question du chapitre 9. Quels sont les liens avec les autres luttes ?
En réalité, l'antifascisme, c'est un mal nécessaire pour toute personne qui porte un projet d'émancipation, un projet égalitaire. Puisque en portant un projet d'égalité, de justice sociale, à un moment ou à un autre, on peut se retrouver confronté à l'extrême droite. Donc l'idée de l'antifascisme, c'est de tenir compte du fait qu'il existe dans le monde politique des gens qui portent le projet exactement antagoniste du nôtre et qui le portent avec la prétention de l'imposer. Et donc la confrontation entre l'extrême droite et les gens qui ont des idées totalement opposées à lui sont inévitables. Et au lieu de la subir, nous, on pense qu'il faut l'anticiper, et c'est tout le propos de la lutte antifasciste. Donc ce n'est pas une lutte, la lutte contre l'extrême droite n'est évidemment pas la chasse gardée des antifascistes, bien au contraire. Les antifascistes, leur seule spécificité, c'est de porter dans les luttes sociales, et non pas en dehors, bien sûr, ça n'a aucun sens, mais à l'intérieur des luttes sociales, de porter cette question de l'existence de l'extrême droite, du danger qu'elle représente non seulement physiquement, mais également idéologiquement. Et c'est toujours important, surtout dans une lutte anticapitaliste, de bien avoir à l'esprit que le modèle que nous on propose ou qu'on défend, ou les valeurs qu'on défend, ne sont pas les seules, en fait, non plus, à s'opposer au système en place, et qu'il existe d'autres alternatives à combattre également. Qu'en fait, il ne s'agit pas de choisir entre qu'est-ce qui est le plus important, de lutter contre l'oppression de l'État, du capital, ou contre les projets, pareil, d'oppression de l'extrême droite. On dit qu'il y a deux dangers et qu'il faut les affronter en même temps. Ça n'aurait pas de sens d'être antifasciste sans s'en prendre à un système qui est structurellement inégalitaire, mais à l'inverse, se déclarer anticapitaliste sans avoir à l'œil aussi l'extrême droite comme un autre potentiel danger, sachant que les deux peuvent s'allier. Il n'y a pas d'opposition, bien sûr, entre capitalisme et extrême droite. En général, les deux arrivent à très bien s'entendre, mais c'est quand même deux problèmes spécifiques différents. Et négliger l'un au profit de l'autre, à notre avis, c'est pas marcher sur ses deux pieds.
Alors continuons à marcher sur nos deux pieds, ben oui, soutenons les antifascistes et puis soyons anticapitalistes. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plein d'informations sur lahorde.info. Eh ben du coup, souvenez-vous, on aurait pu vous parler d'une manifestation antiraciste, antifasciste et contre la violence d'État, une manifestation qui avait lieu samedi 14 mars au Mans à l'appel de la marche des solidarités. 200 personnes étaient présentes place de la République vers 16h et sont allées dire leur antiracisme, leur antifascisme et leur rejet des violences d'État dans les rues du Mans, en commençant par la rue des Minimes, pleine de chalands, effectuant les achats, leurs achats, comme chaque samedi après-midi. Eh ben ouais, la dernière fois, ça avait commencé comme ça, parce qu'on n'avait pas le droit de parler des partis. Élections obligent, mais cette semaine, la trêve médiatique n'ayant plus cours, les élections municipales sont passées. Alors, eh ben, on va se mettre des petits slogans qui ont parsemé cette manifestation du 14 mars. Oh là, ça commence comme ça. Alors, Antifa pour antifasciste, oui, on comprend bien pourquoi ce genre de slogan ne peut pas être diffusé pendant une période de réserve médiatique, causée par une élection, puisque les listes du RN et de plein de divers droites sont remplies de candidats et candidates qui propagent l'idéologie fasciste, même s'il y a plein de journalistes et de politiques qui ne voient pas le problème. Cette idéologie qui est une idéologie de régénération d'une communauté identitaire fantasmée, contaminée par des éléments étrangers. Et cela au nom du peuple unifié derrière son guide. Eh ouais, c'est en notre nom que ces gens-là veulent nous faire croire qu'il faut purifier la société.
Égal, personne n'est illégal. Égo, égal, personne n'est illégal.
Celui-là non plus, il ne pouvait pas passer encore à cause des fachos, dont l'existence est niée par une grande partie du personnel politique, qui cherche surtout à disqualifier l'action antifasciste. Et pourtant, durant les municipales, bon nombre de militants de partis politiques ouvertement racistes, ayant des tendances fascistes, se planquaient sous des étiquettes bidons. À Laigné-en-Belin-Saint-Gervais, un ancien du Parti de la France de Karl Lang, devenu depuis cadre départemental du RN, un certain Aldric Deray, se présente sans étiquette. Le Parti de la France pourtant est ouvertement pétiniste. Oui, ouvertement, c'est le mot du moment. Ouvertement, parce qu'il y en a qui se planquent puis d'autres qui se planquent pas. Depuis sa création en 2009, le Parti pour la France est aussi pour la régénération d'une communauté identitaire fantasmée, ah ben, là, elle est blanche et catholique, contaminée par des éléments étrangers. Et cela au nom du peuple unifié derrière son guide. Ça les connaît au Parti de la France. En Sarthe également, plusieurs têtes de liste ou candidats sont membres du Parti Reconquête, mais ne s'affichent pas en tant que tel. Ainsi à Parigné-l'Évêque. Un certain Olivier Bélier, candidat Reconquête aux législatives de 2024, est à la tête d'une liste divers droite. Alors qu'il adhère aux idées du parti de Zemmour, multicondamné pour injures racistes et provocation à la haine raciale, au nom de la défense d'une régénération de la communauté identitaire fantasmée française, contaminée par des éléments étrangers. Et à la Flèche, À la flèche, voilà la population représentée par un parti dont l'essence même est le racisme, à travers le concept de préférence nationale. Préférence nationale qui a attiré Romain Lemoigne au RN, comme il le dit lui-même dans un article du 22 mars paru sur Icimen. Romain Lemoigne avait rédigé 4 articles pour le magazine Causeur entre décembre 2021 et décembre 2023. Causeur, un magazine créé par Elisabeth Lévy, qui a son rond de serviette chez Pascal Praud sur CNews, et qui n'est pas à son coup d'essai en termes de soutien au racisme, puisqu'en 2002, Elisabeth Lévy, déjà, avait commis dans le Figaro un article intitulé « L'antifascisme ne passera pas » en plein entre-deux-tours de la présidentielle. Elle a continué très régulièrement depuis à se moquer de ceux qui voient du fascisme dans l'extrême droite française. Causeur où l'extrême droite française a page ouverte sur son obsession du grand remplacement. Dans l'un des articles de Romain Lemoigne sur le CNR, le Conseil National de la Refondation, un machin sans consistance comme en a créé tant le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep pour détourner l'attention des révoltes du moment, le nouveau maire de La Flèche donc écrit un article sur le CNR où il fait référence au CNR initié en 1943 par la France libre et qui avait comme président Jean Moulin puis Georges Bidault en le faisant présider par le général de Gaulle. Bon bah voilà, mais c'est pas grave, petite erreur, parce que le général de Gaulle c'est sa grande idole dans tous les sens du terme, qui l'a fait adhérer aux Républicains avant de devenir ouvert raciste au RN, dont on ne rappellera jamais assez à tous les électeurs que c'est un parti qui veut appliquer la préférence nationale dans le logement. Il y avait l'idée de virer des centaines de milliers de personnes qui n'étaient pas françaises pour réserver le logement social aux Français, également appliquer la préférence nationale à l'école, dans la fonction publique, en empêchant par exemple les binationaux d'être fonctionnaires. Une mesure du programme de 2022. On ne lit jamais assez les programmes. Mais déjà dans Causeur, dans un article sur la Nouvelle-Calédonie en 2023, des relents assumés de colonialisme à la sauce du 19e siècle étaient bien présents. Ainsi, Romain Lemoigne écrit en décembre 2021. Oui, l'article sur la Nouvelle-Calédonie, il est en 2021. À la suite du second référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, je cite « Peut-être que 17 000 km séparent le caillou c'est un surnom pour la Nouvelle-Calédonie, de la métropole, mais la France a la chance de pouvoir compter sur ce territoire aux nombreux atouts dans la région Indo-Pacifique. De son côté, la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir ce lien historique avec la France. » Je rappelle que ce lien historique, c'est une colonisation. Hein. C'est-à-dire que les troupes françaises sont arrivé, on dit aux Kanaks, tu fermes ta gueule ou t'es mort. Certains sont révoltés régulièrement et du coup sont morts. Donc, la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir ce lien historique avec la France qui lui accorde, notamment par sa présence dans l'Union européenne, un véritable soutien économique. Si la Nouvelle-Calédonie nous est éloignée géographiquement, elle nous est proche sur tous les autres plans, géostratégiques, géopolitiques et surtout civilisationnels. Aussi bien pour l'avenir des Néo-Calédoniens que pour celui des Français métropolitains, cette collectivité ultramarine doit rester française. La civilisation des sauvages et la grandeur de la France. On se croirait revenu à l'Assemblée nationale dans les années 1980, quand Jules Ferry justifiait la colonisation. Donc, la figure gaullienne du grand homme, la grandeur de la France et la préférence nationale servent de boussole idéologique à Romain Lemoigne. Mais il est plus complexe que cela, puisque depuis 2023, il contribue à la revue de Michel Onfray, Front Populaire, une revue de souverainistes de tout poil qui se fait plutôt du côté de l'extrême droite, hein, parce qu'ils s'aventurent souvent sur les leitmotifs de cette extrême droite et ils utilisent abondamment le vocabulaire de l'extrême droite dans Front Populaire. Dans cette revue, le premier édile fléchois n'a de cesse de fustiger Emmanuel Macron pour en appeler au peuple. Bon alors attention, pas tout le peuple, hein, mais une élite populaire qui remplacerait l'élite dirigeante. Une élite contre une autre, pas très démocrate tout ça. Mais bon, s'il était démocrate, il serait pas au RN. En tout cas, force aux habitants de La Flèche qui devront lutter pied à pied contre l'idéologie de la nouvelle équipe. Le RN n'est pas le seul parti à promouvoir les idées d'extrême droite, à savoir légitimer le tri des humains. Et bien justement, au sortir de la rue des Minimes le 14 mars, la manif se dirige vers la rue Auvray. Pour qui ? Pourquoi ? Eh bien, on verra ça la prochaine fois. On vous vous rappelle que si vous voulez avoir des informations diverses et variées sur ce qu'il se passe, par exemple à l'Allumette, le samedi 28 mars à 19h, semaine contre l'apartheid israélien 2026, la Palestine nous libère toutes et toutes, eh bien il y a la projection du documentaire Inside Israel d'Apartheid qui date de 2022, suivi d'un échange sur la dégradation continue de l'état des droits fondamentaux des Palestiniens dans les territoires occupés, accompagné d'un coin restauration palestinien. C'est en collaboration avec le mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Et ça aura lieu donc 7 rue de la Marne à partir de 19h le samedi 28 mars. Vous voulez en savoir d'autres? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur sarthe.demosphère.net. Et également, allez voir sur larnapé.info. Et la semaine prochaine, on vous parlera du CRAAM. Ils ont mis je ne sais pas combien de A et qui m'ont permis notamment d'avoir des informations sur Monsieur Lemoigne et compagnie. Eh, jeunes gens, puisque on se retrouve la semaine prochaine, je vous dis tout simplement allez, au revoir. Mm-hmm.